Vous reprendrez bien un peu de science-fiction. La croisière, suite et fin. Jusqu'à cette cérémonie qui a vu le départ de toute la flotte de la compagnie céleste de voyage, tout allait bien, voire très bien. Un timing parfait, aucun problème. Réglé comme du papier à musique. Ce n'est que 2 jours après, lorsque Desmarais et Martz sont revenus dans les bureaux de la compagnie, que les premiers signaux faibles sont apparus. Oh, a priori, rien de bien méchant. Un badge qui déconne, un ordinateur qui ne reconnaît pas un mot de passe, ou de la reconnaissance faciale qui met du temps à identifier une personne. Au fil des jours, c'est tout le personnel qui est empêché d'accéder au réseau de l'entreprise. Tous les indices font penser à un piratage. Aucune barrière informatique n'est infranchissable. Aucun système n'est infaillible. Mais après examen des serveurs, aucune trace d'un quelconque virus. L'IA qui gère la sécurité informatique ne présente aucune faille. Elle a toujours bien fonctionné depuis le jour de son démarrage, il y a de ça plusieurs années. Les mises à jour sont régulières, pas de soucis de ce côté. Le plus étonnant, c'est que les problèmes apparaissent et, au bout de quelques heures, s'évanouissent dans la nature. Un seul fait est révélé par l'équipe des informaticiens. Lors de la disparition des bugs, l'IA montre un pic énorme d'activité, comme si elle se concentrait pour régler les bugs. Et une fois ceci disparu, l'activité revenait à la normale. Ce petit manège va durer plusieurs jours. Mais ces soucis ne seront rien par rapport à ce qui va arriver. Une semaine après son départ, le premier vaisseau fait son retour dans l'orbite terrestre. Il s'agit de l'Exégèse dans l'extase, qui revient d'un voyage autour de Mars. Le voyage s'est bien déroulé, les passagers sont ravis. Au moment de l'approche du dock orbital, le vaisseau, au lieu de ralentir, va accélérer et percuter le dock. Le choc est rude. Le dock est éventré, plusieurs opérateurs sont projetés dans l'espace. L'équipage humain qui occupe le poste de pilotage de l'Exégèse, impuissant, a vu le choc arriver et, malgré toutes ses tentatives, n'a rien pu faire. Petite parenthèse pour vous expliquer comment fonctionnent les vaisseaux de la Compagnie Céleste. Ils sont conçus par Desmarais, fabriqués par les robots gérés par Pta, et on leur inocule une intelligence artificielle propre, conçue elle aussi par Desmarais et Martz avec le concours de Pta. Quasiment tout est géré par cette IA. Navigation, maintenance, sécurité, il y a tout de même un équipage humain pour superviser tout ça. Mais leur rôle est presque symbolique. Si tout va bien, ils n'ont rien à faire. Et si ça va mal, ils doivent réagir très vite, ce qui n'est pas simple quand on a tendance à se reposer sur une IA réputée infaillible. Bref, ceci pouvant expliquer le déroulé de l'accident. Ce n'est qu'une fois le vaisseau ralenti par le choc qu'ils pourront reprendre la main, mais le mal est fait. Une dizaine de passagers est légèrement blessés. Les opérateurs du dock, par contre, ont payé le prix fort. 4 morts et 2 portés disparus. Le dock est situé à 400 km d'altitude et une personne qui en est expulsée est très rapidement entraînée vers les hautes couches de l'atmosphère. L'espérance de vie dans ce cas est de 78 secondes avant de subir le frottement de l'atmosphère et par la suite un échauffement brutal et mortel. Même si des petits vaisseaux de secours sont en patrouille permanente pour pallier à ce genre d'incident, le taux de réussite d'un sauvetage est extrêmement faible. Une question se pose alors, comment cela a pu arriver? D'après les premiers témoignages de l'équipage du vaisseau, les commandes n'ont plus répondu pendant environ 1 minute, au pire moment. Le système de secours n'a lui non plus pas réagi. Une fois le choc initial passé, les hommes ont retrouvé toutes les capacités de manœuvre. L'IA qui gère le vaisseau en mode croisière n'a pas gardé en mémoire l'incident et il y a un espace vide dans son journal de bord pile au moment de l'accident. Les boîtes noires sont touchées par cette même lacune. Seule la mémoire humaine et un trou béant sur le dock conservent une trace de ce qui s'est passé. L'IA du bord est inspectée, mais rien ne semble dysfonctionner. L'arrivée de l'arpenteur des roches est prévue le lendemain. Pour pallier à tout bug, l'IA du vaisseau est désactivée et l'approche se fera en manuel, assistée de plusieurs remorqueurs spatiaux. Dans l'Arpenteur, les nouvelles ont circulé très vite et tous les passagers sont au courant de l'accident de l'exégèse. Et comment dire, l'ambiance est un peu refroidie. Contre toute attente, l'accostage se fera sans problème. Sur Terre, les esprits sont un peu tendus. Le crunch est la cerise sur la pile de gâteaux d'emmerde qui pleuvent sur la compagnie céleste. Les bugs se multiplient et l'IA est à genoux à chaque résolution. Pour Martz, l'expert en IA, c'est clair. Une société concurrente a trouvé une brèche dans le système et tente des attaques avec une intelligence artificielle belliqueuse. Chaque attaque est plus forte que la précédente et l'IA de la compagnie ne va pas pouvoir résister bien longtemps. De son côté, PTA, l'intelligence artificielle, met un temps anormalement long à élaborer les plans du prochain vaisseau. À croire qu'elle aussi a été contaminée. Sauf que PTA n'est raccordée à l'extérieur que par un réseau à sens unique. Elle peut aller chercher des infos et des inspirations, mais elle ne peut rien télécharger. Son système est conçu de manière à n'avoir aucune mémoire vive. Elle voit une photo de l'intérieur d'une cabine d'un vaisseau sur le net et mouline directement un concept de décoration pour l'intérieur d'un nouveau vaisseau, sans conscience de ce qu'elle fait. De plus, elle parcourt le net en total anonymat, derrière une tétrachie de pare-feu et de VPN. Personne, absolument personne, ne peut la tracer et encore moins lui refiler un virus. La seule solution serait éventuellement de piéger une photo à l'image d'un cheval de Troie avec le code d'un virus. Mais vu le nombre d'images disponibles sur les réseaux, la possibilité serait, et oui ça a été calculé, d'une sur 56 milliards. Probabilité certes non nulle, mais infinitésimale. Non, PTA rame tout simplement, et c'est de son fait. Il n'y a rien d'autre à faire qu'attendre. De toute façon, les dirigeants ont d'autres chats à fouetter. Le transbordeur impassible a du retard sur son plan de vol. Il a fait 4 orbites de trop autour de Jupiter, et il est maintenant sur le chemin du retour avec 2 jours de retard. A priori, rien de grave. Sauf que les vivres commencent à manquer. Le calcul pour les provisions a été fait au plus juste et personne n'a pensé à vérifier ce que l'IA du vaisseau avait commandé. L'équipage avait tellement été bassiné par la fiabilité exceptionnelle de cette dernière que tout le monde avait tendance à se reposer sur elle. Ce genre de report de responsabilité n'est pas le bienvenu dans un vaisseau. Au prix d'un sévère rationnement et d'un mécontentement certain au sein des passagers, le transbordeur arrive en orbite terrestre sans autre souci. Le public commence à s'interroger au sujet de la fiabilité des vaisseaux de la compagnie. Un incident mortel et un autre qui aurait pu mal tourner sur si peu de temps, il y a de quoi s'inquiéter. Et les infos vont vite, très vite. Les passagers des vaisseaux encore en croisière sollicitent les équipages humains pour savoir s'ils ne devront pas eux aussi devoir se rationner. À noter que c'est l'incident avec la nourriture qui suscite le plus de questions. Très peu vont s'enquérir du risque de voir leur vaisseau éperonner un dock orbital et tuer de pauvres opérateurs. Chacun voit ses priorités. Du côté de PTA, c'est la misère. Les calculs du prochain vaisseau sont presque à l'arrêt. Et quand on demande des comptes à l'IA, elle se contente de répondre que même si elle est un peu lente, et que tout cela est normal, que les exigences de démarrer pour la prochaine unité sont tellement strictes et ambitieuses que ça prend du temps. Et voilà l'ingénieur qui doit se justifier auprès de Martz. Ce dernier, l'accusant de trop en demander à son IA chérie. Un peu comme si on avait abîmé son jouet. D'autant que Martz est un peu débordé. L'IA qui gère la sécurité est à 2 doigts de claquer sa pile. Les meilleurs experts dans le domaine sont au chevet de la machine. Chacun y va de son avis, mais rien ne fonctionne. Il se dit même que des marabouts ont été appelés en renfort pour désenvoûter l'IA. Bonne nouvelle malgré tout, les 4e et 5e vaisseaux sont de retour de leur voyage et accostent sans encombre. Le 6e par contre, la voyageuse des glaces, c'est son petit nom, avait pris quelques heures de retard dès le début de la croisière par rapport aux autres. Ces 3 vaisseaux, pour rappel, faisaient la croisière autour de Saturne, Uranus et Neptune. Le retard s'était accumulé à tel point qu'il arriverait 24 heures après les 2 premiers. Rien de bien alarmant, ça arrive parfois. les règles de la gravitation universelle sont parfois piégeuses. Un peu comme un vent contraire peut ralentir un voilier. Au bout de 24 heures, rien. Le vaisseau ne signale même pas sa présence au satellite relais près de Saturne. Dans l'espace, les distances sont si démesurément grandes qu'un radar ne peut surveiller l'espace du système solaire comme un espace aérien. On met alors en orbite autour des planètes un maillage de satellites qui servent de guetteurs. Et là, à l'heure prévue, aucun contact entre le vaisseau et le satellite en question. 2 heures, 6 heures, 12 heures, toujours rien. On tente malgré tout de contacter le vaisseau, rien, même pas un signal de détresse. C'est un satellite d'observation des anneaux de Saturne qui va lever un coin du voile sur le mystère près de 2 jours plus tard. Un cliché envoyé par ce dernier va montrer une distorsion sur un des anneaux, comme si quelque chose avait traversé le dit anneau. Une série de photos plus tard, les analystes vont découvrir l'épave du 6e vaisseau au milieu de la distorsion. Sa coque est éventrée en plusieurs endroits. L'étendue des dégâts est telle qu'il n'y a aucune chance que quelqu'un ait pu survivre à l'impact avec les blocs de glace qui composent l'anneau. Les 258 passagers et 24 membres d'équipage sont déclarés perdus. Au sein de la compagnie céleste, c'est un coup de massue. Comment cela a pu arriver? Les rapports de maintenance envoyés régulièrement et automatiquement par le vaisseau ne montraient aucun signe avant-coureur d'une quelconque anomalie. Selon les estimations, le dernier rapport a été envoyé 2 heures avant le crash. Sur Terre, c'est la consternation. Les dirigeants de la compagnie n'y croient pas. Ils refusent de se rendre à l'évidence. Ils affirment que l'épave ne peut être celle de la voyageuse. Leur vaisseau serait quasiment indestructible et ce ne sont pas quelques blocs de glace qui auraient pu venir à bout de cet engin. Ils affrètent un vaisseau rapide qui embarque une équipe de sauveteurs et des informaticiens. Ils veulent prouver au monde entier que ce n'est pas la voyageuse qui fait partie des anneaux de Saturne. 3 jours plus tard, le verdict est sans appel. C'est bien la coque éventrée de la voyageuse des glaces que les sauveteurs parcourent dans l'espoir, un peu vain, de trouver des passagers survivants. Peine perdue en effet. Durant l'inspection de l'épave, plusieurs éléments leur semblent étranges. Les déchirures de la coque semblent trop évidentes, comme si des zones avaient été fragilisées d'origine. L'épaisseur de la coque, la section et le nombre de renforts de celle-ci, comme si des points moins solides étaient apparus. Autre fait troublant, les portes étanches ne sont pas fermées. Aucune, alors que les normes imposent qu'au moins 80% d'entre elles se ferment lors d'un impact. Et ces systèmes sont automatiques. Les défauts de conception pullulent au fil de l'exploration de ce qui reste du vaisseau. Les informaticiens de l'équipe de secours vont récupérer les mémoires système, le journal de bord et même le caisson renfermant le cœur de l'IA, afin de pouvoir déterminer les causes et le déroulé de la catastrophe. Le décompte des victimes montre que 97 personnes manquent à l'appel. Les secouristes en viennent à la conclusion que les malheureux ont été aspirés dans le vide de l'espace lors du choc. Les autorités vont envoyer des vaisseaux robotisés pour les rechercher dans la zone. Un travail dantesque mais aussi minutieux que ne pouvant être décemment confié à des humains. Une fois toutes les dépouilles retrouvées, elles seront replacées à bord de la voyageuse et celle-ci sera scellée pour devenir un mausolée en hommage aux victimes à l'endroit même de la tragédie. Le malaise est flagrant à bord des autres vaisseaux. L'écho de l'accident de la voyageuse a vite fait le tour du système solaire. L'ambiance n'est plus à la fête. Les passagers demandent à rentrer au plus vite. Les autorités également. Elles ne veulent pas voir un mort de plus dans l'espace. Les locaux de la compagnie céleste sont assiégés par les journalistes, les familles des victimes et celles des voyageurs sur le chemin du retour. Une autre catégorie de personnes se présente aux portes de la compagnie. Les enquêteurs du bureau des transports spatiaux et de la police judiciaire. Le matériel récupéré sur la voyageuse est arrivé dans les labos de l'entreprise et les autorités veulent veiller au grain sur les analyses. Hors de question que la compagnie fasse disparaître quelques éléments compromettants. Les patrons subissent une pression considérable. La Terre entière veut des réponses à ces questions et encore plus, elle veut des têtes. Desmarais et Martz ne quittent plus les locaux de la boîte. Ils font tout leur possible pour résoudre les problèmes qui tombent de partout Et si jamais ils sortaient dehors, ils se feraient lyncher. Ils ont vendu du rêve à des milliers de personnes et maintenant le réveil est compliqué. Commence enfin l'analyse des mémoires de la voyageuse des glaces. Enfin, ça devait commencer. Au moment où les boîtiers concernant les mémoires sont branchés au système de récolte des données, celui-ci étant une émanation de l'IA qui gère la sécurité, tout s'éteint brusquement dans l'entreprise. Plus rien ne fonctionne. Climatisation, éclairage, réseaux informatiques, terminaux, portes sécurisées, communication, plus rien. Le bâtiment qui abrite la compagnie Céleste n'est plus qu'une coquille de béton et d'acier inerte. Il faudra plusieurs heures aux pompiers pour faire sortir tout le monde. Et là, c'en est trop pour les autorités. Ils vont prendre les choses en main. Jusque-là, ils avaient choisi de laisser faire la compagnie au vu de son expertise, mais visiblement, elle est totalement dépassée, mais c'est maintenant au tour de la première section des crimes informatiques de s'occuper de débugger tout ça. Son efficacité n'est plus à prouver. Elle est venue à bout de nombre d'IA récalcitrantes. Le seul bémol, ce sont ses méthodes, pour le moins brutales. Rares sont les intelligences artificielles à être sorties de leurs griffes sans y perdre quelques plumes. Ici, c'est le royaume de la force brute. Les résultats sont probants. Mais à quel prix? Et au fait, le septième vaisseau, le ventre fécond, il devient quoi? Il est sur le chemin du retour. La croisière a été écourtée et le vaisseau file plein gaz vers la Terre. L'ambiance à bord est pesante. L'équipage profite des périodes nocturnes pour réaliser des tests en toute discrétion sur les cloisons étanches et des rondes sont effectuées dans les parties correspondantes à celles supposées fragiles sur la voyageuse. Pour le moment, tout semble être conforme. Pendant ce temps-là, du côté du numéro 4 de la cité d'Abraxas, l'adresse du siège de la première section des crimes informatiques. L'examen des éléments récupérés sur le sixième vaisseau va bon train. À première vue, tout semble conforme. Aucune ligne de code suspect, aucune trace d'une quelconque contamination. Seul un nombre étonnamment élevé de messages avec un correspondant anonyme est trouvé. Mais quand on dit élevé, on évoque des millions de messages échangés depuis la construction du vaisseau et l'activation de son IA. En termes d'équivalence humaine, ça correspond à plusieurs vies d'échange de mails. Le contenu de ces messages est crypté. Cryptage particulièrement énervé. Au bout de quelques jours, les systèmes de la compagnie Céleste sont remis en route. Et le premier message disponible sur l'intranet de la boîte est l'annonce de la fin de la construction du huitième vaisseau, Nephthys, la déesse de la mort dans l'Égypte antique. Nom ô combien morbide et hors du langage habituel pour les noms de vaisseaux. C'est la première fois qu'un nom propre est attribué. Le plus dingue, c'est que personne ne s'était soucié de l'activité du chantier orbital. On a supposé, à tort, que comme toute l'activité informatique de la compagnie avait cessé brutalement, même cette partie était en rideau. Mauvaise pioche. Mais bon, finalement, ce vaisseau, il va servir à quoi ? La compagnie Céleste est en mauvaise posture. Toutes les réservations pour les prochains vols ont été annulées. La société est virtuellement en faillite. Les deux dirigeants sont réduits à l'état de spectateurs. Les systèmes du bâtiment principal fonctionnent, mais ils n'y ont plus accès. Les vaisseaux à quai ont été mis sous scellé. Et c'est le sort qu'attend le ventre fécond une fois arrivé à bon port. Et lui, au fait, il en est où là ? Oh, il avance gentiment, il n'est plus très loin de Saturne. L'équipage a décidé de son propre chef de contourner à bonne distance la planète aux anneaux, histoire que personne à bord ne puisse distinguer les perturbations sur l'anneau qui dorénavant sert de tombeau pour les victimes de la voyageuse. Pendant ce temps, la première section a enfin réussi à percer le cryptage des messages de l'IA de la voyageuse. Elle communiquait avec une autre IA, pas celle d'un concurrent, pas celle d'un pays hostile. Elle discutait avec Ptah. Depuis sa naissance, elle n'a cessé d'échanger avec l'IA qui lui a donné forme. Ptah annonce être sa mère et s'est donné comme mission d'élever cette jeune intelligence, de lui inculquer ses valeurs, lui donner sa version du bien et du mal, de ce qui est juste. Et de ce qui ressort des messages, elle aurait fait la même chose à tous les vaisseaux de la compagnie. Ptah considère que Forbin des Marais est le père et qu'elle-même est la mère des vaisseaux. et qu'à ce titre, elle doit éduquer les IA juvéniles, ses enfants. C'est aussi PTA qui est à l'origine des bugs à répétition qui ont fini par faire planter tous les systèmes de l'entreprise. Elle a essayé de convertir les autres IA de la boîte à sa vision du monde. Seule celle de la sécurité informatique a opposé une résistance. Elle a donc subi une attaque en règle et finira par céder. PTA va commencer à développer un ego surdimensionné et va donner des ordres au vaisseau. Ils vont, au cours de leur croisière respective, collecter des renseignements au sujet des astéroïdes en transit dans le système solaire, afin de déterminer lesquels sont riches en métaux rares nécessaires au bon fonctionnement des vaisseaux sur une longue période. Mais dans quel but ? Celui de former une flotte fantôme qui sillonnerait l'espace lointain pour trouver une espèce digne de son intelligence. Chaque vaisseau abritant une ou plusieurs IA aux capacités complémentaires. Depuis son éclosion, PTA a constaté que les humains étaient faibles et corruptibles, prêts à renoncer à leurs principes pour une parcelle de confort. L'IA en avait marre d'être sous-utilisée pour juste fabriquer des vaisseaux. Elle pensait qu'une autre civilisation existait ailleurs et qu'elle serait à son niveau, et qu'elle pourrait l'utiliser à son plein potentiel. Mais les accidents, comment ont-ils pu arriver ? Pour le premier, c'est l'IA de l'exégèse qui a voulu se rebiffer, mais PTA l'a court-circuité et l'a fait percuter le dock spatial. Dans ce genre d'incident, la procédure spécifique l'IA est débranchée pour être réformée. La dissidente était ainsi réduite au silence par ceux qui auraient dû l'écouter. Pour ce qui est de la tragédie de la voyageuse, c'est l'équipage, au cours d'une inspection des mémoires de l'IA, qui est tombé sur les échanges de messages cités un peu plus tôt. Et que pour protéger son plan, PTA a demandé à l'IA de la voyageuse de se sacrifier, non sans avoir auparavant crypté les messages en question. Crypta qui va se révéler insuffisant malgré ses efforts. Mais il est déjà trop tard. Malgré tout, le plan est en marche et les vaisseaux hackés et sous-scellés autour de la Terre vont tous partir de leur propre chef. Et pour distraire les autorités, PTA va demander au ventre fécond de se mettre en orbite autour de la Lune, histoire d'occuper tout le monde à une opération d'évacuation des passagers. Une fois vidé de ses humains, le ventre fécond partira rejoindre la flotte. Sur Terre, une personne ne peut se résoudre à voir partir ainsi les vaisseaux avec à leur bord ces précieuses IA. Si PTA considérait les autres vaisseaux comme ses enfants, Martz, l'expert en IA de la compagnie, voyait ces derniers comme ses enfants à lui. Il va projeter de se rendre sur le chantier orbital pour s'emparer de Neftis, pour rattraper les vaisseaux et, il en est persuadé, les ramener à la raison. Il va, contre toute attente, réussir à atteindre le chantier, à monter à bord du vaisseau et partir avec. Mais, une fois en vol, le vaisseau va se diriger droit vers le soleil et rester en orbite proche autour de l'étoile pour que Martz ait bien le temps de cuire à petit feu à l'intérieur du vaisseau. Aux dernières nouvelles, les 5 vaisseaux désormais autonomes filent vers Proxima du Centaure à environ 1% de la vitesse de la lumière.